Alors, ça peut être intéressant aussi en SVT parce que je sais que vous faites aussi ce genre de choses. Hein. C'est important, ça paraît un peu basique, mais les enseignants ont besoin d'outils tout près déjà qui donnent des pistes, des outils, des familles d'outils. Par exemple, il y a très peu d'enseignants qui savent la différence entre un petit logiciel de cartographie, un SIG, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire quoi, etc. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à la dernière partie de cette journée, bon, qui est un peu longue, un peu dense. On avait voulu, avec l'équipe, on a voulu garder un peu de temps pour échanger, parce qu'on est toujours frustré lorsqu'on a des démonstrations de ne pas échanger nos idées. Alors, on a fait un petit peu un recensement des thèmes qui sont revenus au cours de la journée. Cette liste n'est pas exhaustive, mais il nous semble intéressant pour faire un état des lieux un petit peu des pratiques, des usages actuels, de savoir dans quelle direction on va. Alors, on va vous soumettre cette liste de thèmes qu'on a numérotés pour être plus clair. Certains ont été plus développés que d'autres, mais surtout, on voudrait que ça serve de base d'échange parce que tout à la fin de la journée, on voudrait avec vous définir quelques objectifs, quelques perspectives pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne se quitte pas comme ça brutalement, mais qu'on envisage un peu ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors, Eric, donc, je te laisse présenter ces thèmes.
Bon, je vais le faire très, très rapidement hein, pour amorcer le débat. On a trop de thèmes pour les aborder tous aujourd'hui. L'idée, c'était que la journée permette de voir un petit peu dans les usages qui étaient présentés, quelles étaient les questions qui se posaient à des praticiens que nous sommes, et de développer ces thèmes par l'échange. Alors, en fait, on ne va pas vous leurrer, les thèmes, on les a préparés un petit peu à l'avance, mais c'est vrai qu'ils sont ressortis, plus pour certains d'entre eux au cours des débats. Alors, quels sont-ils ? Je les liste très, très rapidement. Il y a le problème du rapport au terrain et à l'espace, le problème de géolocalisation, de repérage, de vision 3D. Bon, on l'a vu à partir d'un certain nombre de communications. Ça s'est revenu assez souvent. Il y a le problème, on voyait dans les interventions qui étaient plutôt au début de la journée, de l'articulation avec des activités plus traditionnelles. Par exemple, l'école de terrain, articuler la prise d'informations sur le terrain et l'utilisation d'un SIG. Ça nous semble un thème de réflexion qui est intéressant. Une question qui porte sur les outils et les méthodes pour le recueil de données. Alors ça n'a pas tellement été évoqué, je crois, au cours de la journée. On a parlé un petit peu de GPS ou de photos avec Géonautes. Par contre, c'est nos collègues anglo-saxons, j'étais en Grande-Bretagne il y a très peu de temps, ils s'interrogent beaucoup sur les technologies nomades, qu'est-ce qu'ils emmènent sur le terrain en tant que géographe ou géologue pour amener de la donnée. Il y a pas mal de choses qui existent actuellement, et avec en particulier l'intérêt des ports USB qui font qu'on peut pratiquer actuellement connecté tout à n'importe quoi. Le problème du passage de ce simple recueil d'analyse de données, à leur analyse, puis à l'analyse spatiale, au raisonnement géographique ou géologique. Et la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les points communs entre ces raisonnements géographiques et géologiques. L'intégration, alors là, on l'a mis sous la forme d'un seul item, et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été développées aujourd'hui dans les interventions. Il y a l'intégration dans l'enseignement. Alors, vu du côté de l'enseignant ou vu du côté de l'élève, c'est-à-dire l'apprentissage, le problème de la formation dont on a un petit peu parlé, le type de tâche, d'activité, de scénario que l'on met en place avec les élèves. On a parlé ce matin de démarches de projet, de jeux de rôle ou de choses comme ça. Je crois qu'il y a probablement derrière la question générale de l'introduction des TIC dans l'enseignement et du renouvellement des pratiques, ces technologies interrogent nos pratiques et donc vont dans le sens du changement des pratiques, en particulier la mise en place de scénarios pour lesquels l'élève est acteur de son apprentissage, est autonome. D'ailleurs, on pourrait peut-être revenir sur la définition d'autonomie proposée par Marie-Josée ce matin, moi j'en aurai une autre. Les approches disciplinaires, interdisciplinaires, transversales. Bon, la pédagogie de projet, là, on est dans les questions qui nous réunissent aujourd'hui, hein, les géographes et les géologues. Alors, la meilleure façon de procéder, je crois que c'est de passer la parole dans le micro au public. Peut-être, Guy, maintenant, tu pourrais peut-être nous rejoindre, ça serait bien, parce que je pensais que tu avais intervenir peut-être sur les problèmes, justement, d'interdisciplinarité, sur les thèmes de convergence. Et si tu es d'accord, moi, je veux bien que tu... Ce serait intéressant que tu commences peut-être par nous en dire quelques mots.
Dans ce cas, tu prends la clé de... c'est la tienne, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est donc une très brève information. En discutant tout à l'heure, on s'est dit que c'était vraiment quelque chose qui valait la peine qu'on en parle ensemble, là maintenant, puisqu'on est bien sur un champ où on a des disciplines qui travaillent ensemble. Et les aspects éducation à l'environnement vers le développement durable sont particulièrement porteurs. Et il se trouve que les thèmes de convergence, parmi ceux-là, il y a cet aspect environnement. Alors, les thèmes de convergence, si vous voulez avoir des informations, ils sont publiés, comme vous le voyez, sur le BO numéro 5 hors série du 25 août. Ils concernent les disciplines scientifiques, c'est-à-dire dans leur programme, dans leur programme du collège, hein, c'est-à-dire que ce sont des thèmes que l'on peut travailler de la 6e à la 3e. Et ce que je veux vous montrer, c'est les thèmes eux-mêmes. Vous les voyez là, énergie, environnement et développement durable, météorologie et climatologie, mode de pensée statistique dans le regard scientifique du monde, c'est là que les matheux sont plus présents, santé et sécurité. Alors, tous ces thèmes-là sont susceptibles au collège de pouvoir bénéficier de l'outil SIG, c'est même l'évidence, c'est pas la peine que je le développe plus que ça, vous voyez. Les disciplines qui sont concernées, vous les voyez là en haut de l'écran, toutes les disciplines, bon, les trois disciplines scientifiques bien sûr, mais toutes les disciplines sont susceptibles d'être appelées à collaborer si une opération, un projet d'étude est mis en place dans le collège. Et en particulier, selon les thèmes, l'éducation physique et sportive, l'histoire-géographie, l'éducation civique et la techno. Voilà. Alors, c'est une opportunité réglementaire pour monter des projets ensemble. Ça ne veut pas dire que ça donne de l'espace horaire, puisque ça se fait dans le cadre horaire des disciplines, des trois disciplines scientifiques. Mais dans ce cadre horaire des trois disciplines scientifiques, un professeur d'histoire-géographie, par exemple, peut très bien être amené à travailler en tandem avec le collègue scientifique. Et sur ce BO, vous verrez une déclinaison thème par thème, très riche, et des thèmes, des documents d'accompagnement sont sur le point d'être élaborés. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus, pour que vous soyez bien informés sur cette opportunité qui rentre en vigueur, en fait, hein, puisque le texte est publié.
Voilà, est-ce qu'on passe, peut-être on peut commencer par ce thème, s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Reste avec nous, peut-être Guy, tu as refusé fermement de répondre aux questions ce matin, je pense que...
Je peux rester debout à côté, là, tu sais.
Comme tu veux.
Autant que vous...
Bien, alors on va peut-être repasser les thèmes parce qu'ils sont passés un peu rapidement. Je crois que certains thèmes vous interpellent davantage que d'autres. Alors soit on peut se mettre d'accord tout de suite, c'est-à-dire qu'on en sélectionne un certain nombre, sachant qu'on ne pourra pas tout traiter. Soit on discute à bâton rompu, mais j'ai peur que si on parte un peu dans tous les sens, il n'y ait pas de structuration et qu'on ne sache pas très bien en ce qui tend ce qu'on a dit. Donc moi je vous propose qu'on les repasse les thèmes et puis qu'on en choisisse quelques-uns qui font l'unanimité ou du moins qui plaisent davantage. Qu'est-ce que vous en pensez ? On les reprend. Ils étaient donc dans les documents. Voici. Voilà. Voilà. Donc. Voilà. Donc, on les a numérotés pour être plus clair. Bon, rapport à l'espace, au terrain. Bon, ce matin, Guy Ménin a commencé par dire « L'homme est un animal qui a un territoire et c'est inscrit dans l'animalité ». Bon, on est dans quelque chose de très fort, le rapport au terrain, au territoire, à l'espace. Il y a quelque chose de très fort, ne serait-ce que l'une des grandes particularités du SIG, c'est la géolocalisation, hein, le géoréférencement, qui est le point commun à tous ces outils-là. Alors, est-ce qu'on en parle un petit peu, par exemple, est-ce qu'on a la même conception de l'espace entre SVT et histoire-géographie ? Peut-être pas, enfin, je ne sais pas si c'est un thème qui vous mobilise. L'articulation avec des outils plus traditionnels, là, on tombe sur des débats autour des TIS, quand même, hein. On est dans des outils qui... nécessite quand même de varier un peu de pédagogie de projet, pédagogie de l'autonomie. Bon, on risque d'avoir des discussions qui tournent, mais enfin qui sont là, qui sont présentes aussi, hein, il ne faut pas se leurrer, autour des usages, autour de ces outils-là. Bon, donc ça, c'est le thème 2. Le thème 3, outils et méthodes. Alors là, la méthodologie qui préside au recueil de données, c'est quelque chose de très important parce que souvent, le modèle est sous-jacent, mais n'est pas apparent. Il n'est pas explicite et on a l'impression que le SIG structure des données comme ça scientifiquement par couche alors qu'il y a eu un modèle de prélèvement. Quelquefois il n'y en a pas, hein, mais en tout cas il y a un système d'information qui fait plus ou moins système Et comment on construit ce système? Est-ce qu'il y a des méthodologies, hein, des modèles conceptuels? Il a été question, je crois, tout à l'heure, de modèles conceptuels qui président à l'élaboration. Alors, si on est dans le SIG de collecte, comme on a vu ce matin avec Sébastien Catala, ou en SVT lorsqu'on fait, par exemple, une sortie terrain, bon, école de terrain, pardon, bien, on prélève de l'information sur le terrain. Et donc là, on se pose de vrais problèmes, hein, de recueil de données. Soit on fait l'impasse là-dessus et on utilise le SIG uniquement comme outil de navigation et d'interrogation sur des données déjà existantes. Dans ce cas-là, évidemment, la question est moins importante. Elle est sous-jacente, mais elle est moins directement liée. Quatrième thème, donc le passage du recueil à l'analyse. Donc, qu'est-ce qui est de l'ordre de la collecte dans la géomatique? On vous a dit, la définition de Wikipédia ce matin était très mauvaise, mais volontairement, on a pris une définition grand public pour qu'au fur et à mesure, un certain nombre d'intervenants puissent affiner. De la collecte, on passe à l'analyse. L'analyse, on passe au raisonnement. Est-ce qu'on est bien dans ces trois étapes-là? Est-ce qu'il n'y a pas des étapes intermédiaires? Est-ce qu'il n'y a pas des chevauchements qui fait qu'on a déjà raisonné avant même de collecter? On a un modèle de prélèvement de l'information qui est déjà conceptuel. Inversement, lorsqu'on raisonne à la fin, on a besoin de revenir à la donnée. Bon. Donc, on peut peut-être simplement déjà sur ces quatre premiers thèmes en prendre deux, par exemple, deux ou trois, qui vous intéressent davantage. Alors, oui, vous avez le micro qui circule, deux micros, 3 et 4. Oui, 3 et 4. Bien.
Donc, quelqu'un veut s'exprimer par rapport à ces questions, soit en posant une question, soit en faisant une remarque, soit en indiquant une expérience personnelle. Je pense que c'est intéressant de partir de ce que l'on a fait avec nos élèves et puis de détailler un petit peu. Oui, il y a Yvan Carlo. Donc,
À propos de 3 et 4, c'est le problème qui était juste évoqué, mais qui était sous-jacent partout, c'est le problème de l'aspect chronophage. Et à savoir, donc, le thème 3, le recueil de données, ça prend du temps parce qu'il faut d'abord peut-être aussi aller sur le terrain. Ensuite, il faut aller récupérer sur Internet un certain nombre de données, les construire, alors le construire avec les élèves pour essayer d'élaborer. Et je trouve que dans ces cas-là, enfin, de mon point de vue, la montagne accouche d'une souris. Et nous, dans notre expérimentation avec Sylvain et puis Thierry Joliveau, on est plutôt s'est orienté plutôt vers on va laisser, je crois que Thierry l'a bien dit ce matin, on rend l'outil transparent et, tout, et les données aussi pour pouvoir mieux se centrer sur le raisonnement géographique, sur l'analyse spatiale, le raisonnement géographique. Et même là, on s'est heurté aussi à cet aspect chronophage. Hein, et je crois qu'on ne peut pas éluder cette question.
D'accord, merci. Quelqu'un veut...
Je soulignerai l'aspect chronophage en plus sur deux axes peut-être, vis-à-vis de l'élève dans sa situation d'apprentissage et vis-à-vis de l'enseignant pour constituer des séquences d'apprentissage.
Je voulais vous demander de vous présenter chaque fois, on n'a pas pensé à le dire, mais c'est important qu'on se connaisse aussi.
Bruno Modica, Académie de Montpellier, Béziers, mais pas le lycée de 12 hectares, celui où on ne peut pas se garer, il est plus petit. Et puis, de toute façon, on n'a pas les mêmes moyens. Alors justement, c'est la différence entre un lycée technique et un lycée classique. Hein, j'en fais pas grief à Sébastien, bien au contraire, tant mieux, qui continue et qui nous montre en plus le chemin. Ça nous permet d'avoir des exemples pour mettre en avant là, ce qu'on voudrait faire par ailleurs.
Qui est dans le lycée technique alors?
C'est Sébastien qui est dans le lycée technique. D'accord. Et moi, je suis dans le lycée du centre-ville, on peut pas se garer.
D'accord.
Voilà. On le saura maintenant. Donc simplement, à propos de l'aspect chronophage, ce que je retiens un petit peu de ce qui a été dit et ce qui a été fait, et merci pour ceux qui l'ont dit et pour ceux qui le font surtout et qui continuent à le faire, c'est que dans une certaine mesure, on peut peut-être essayer de contourner le problème à notre niveau, parce qu'on est tous bloqués par les échéances qui sont les programmes et les choses comme ça. Très concrètement, j'ai appris énormément de choses sur ce qu'ont fait nos collègues naturalistes sur le Japon, et en particulier, il y a un certain nombre de choses qu'ils font sur le Japon qui, nous, à titre, dans le cadre de notre programme de terminal, nous intéressent, et qui, bien entendu, ne peuvent pas être utilisés dans une séquence en géo, parce que effectivement, là, ça serait complètement chronophage et en partie hors sujet. C'est-à-dire que je vois dans ce qui vient d'être fait deux types d'utilisation. Il y a bien entendu ce que l'on peut faire et qui est le scénario idéal dans le cadre de groupes restreints, dans des classes super équipées, avec parfois effectivement le plateau d'ordinateurs portables dont nous parlions tout à l'heure avec Monsieur l'inspecteur général. C'est une chose entendue. Mais il y a aussi peut-être une utilisation directe, soit effectivement l'utilisation à ce moment-là présentielle en classe avec le travail autonome et le vidéoprojecteur. Et à ce moment-là, c'est un pis-aller, on est bien d'accord, mais ça permet de montrer des choses et d'avoir effectivement une intervention de l'enseignant pour présenter un phénomène géographique précis dans un cadre précis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et j'aimerais peut-être qu'on y réfléchisse, c'est celle, puisque après tout, dans un certain nombre de situations, les élèves sont au moins aussi bien équipés à titre personnel que l'établissement dans lequel ils suivent leur enseignement, c'est le travail autonome en classe. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas bâtir un certain nombre de séquences et, j'allais dire, un certain nombre de tutorats sur lequel les élèves pourraient aller travailler. Par exemple, dans ce qu'a présenté Marc Loez, moi je verrais très bien, effectivement, un certain nombre de guides, un certain nombre de méthodes que les élèves pourraient effectivement expérimenter chez eux. Quitte ensuite à réutiliser ce qu'ils ont fait à ce moment-là en synthèse en classe, de façon globale, vidéoprojecteur et ordinateur portable, pour faire effectivement la mise en commun. Ça peut être une utilisation, je suis bien d'accord, les élèves ne sont pas forcément les acteurs directs en classe de leur propre formation, mais bon, nécessité fait loi, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça, je crois que dans l'éducation nationale, on sait le faire depuis longtemps. Merci.
Merci pour cette intervention. Guy, tu voulais réagir ?
Oui, bah, un petit peu, puisque personne d'autre ne réagit. Je crois qu'il y a un problème fondamental qui est posé. Qu'est-ce qu'on attend de cet usage de ces systèmes d'information géographique ? Les choses sont chronophages, sont considérées comme chronophages dès qu'on considère, c'est ce que vous disiez, on accouche d'une souris, dès qu'on considère que la valeur ajoutée n'est pas à la hauteur de l'effort qu'on a consacré à la mise en place de ces activités. Mais à partir du moment où on se dit que de toute manière, ce qui importe, c'est de mettre l'élève sur une activité où c'est lui qui manipule les objets, c'est lui qui travaille sur les supports qu'on lui fournit. Si on considère que c'est fondamental de lui laisser des plages d'autonomie pour qu'il explore lui-même les bases de données, pour que, guidé par le raisonnement correspondant au problème que l'on a posé ensemble, l'élève va chercher les données pertinentes, il fait un travail de tri. Dans ce cas, c'est plus chronophage. On considère même que c'est le temps nécessaire pour qu'il s'approprie la notion qu'on veut qu'il ait acquise. Alors, il est bien évident qu'on ne peut pas le faire à chaque fois et qu'il est hors de question de faire tous les cours comme ça. Le SIG ou n'importe quel outil informatique ou autre est un des moments, un des supports qu'à un moment donné, on va considérer comme privilégié dans cette séance. Et puis voilà. Alors, du SIG tous les jours, certes non. Du SIG, mais à fond à ce moment-là. Et puis, il y a des moments où le SIG sera pratique pour le professeur pour faire une démo. Et ça, ça fait partie aussi de la batterie d'utilisation qu'on peut en espérer.
Yvan, tu as repris le micro.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais quand on débouche sur cette chronophagie qui est peut-être une représentation mentale des enseignants, et c'est un des facteurs, nous on l'a bien vu dans notre expérimentation, cette chronophagie a été un facteur de blocage et qui est très réel sur la diffusion des outils géomatiques. Et c'est ça où, c'est pour ça que j'ai posé tout de suite le problème de la chronophagie, parce que pour nous qui sommes convaincus, on sait que la chronophagie est très relative, hein, parce qu'on a d'autres utilisations. Mais par contre, pour la masse des collègues qui voient ces outils comme ça tourner autour d'eux et qui n'osent pas se lancer, et le facteur d'inertie a été, pour nous, pour 3 ans d'expérimentation, on a eu 1 an de blocage de l'équipe, hein, à cause de ça.
Pardon. Soit je réagis tout de suite, soit. Non, mais
pendant que le micro circule.
Oui. Ce problème-là, j'ai envie de dire qu'il a été très, très bien mis en évidence tout à l'heure par M. Joliveau. Et en voyant sa diapo correspondante, je me disais, il a complètement raison, 100%. Simplement, ce n'est pas un problème de SIG, c'est un problème de TIS tout court. Voilà. Or, il y a une chose que je voudrais. Une expérience dont je voudrais vous faire part. Je suis en train de regarder de très très près la façon dont évolue à l'échelle nationale, un peu partout, l'équipement et l'usage des TIS. Des TIS en général, hein, pas spécialement les SIG, parce que si je me concentrais sur les SIG, actuellement, je ne verrais probablement pas grand-chose. Il n'y en a pas, c'est clairement pas encore très général. Mais par contre, ce que je constate est assez époustouflant. Je suis allé dans une série, dans une cité scolaire, pour regarder l'usage d'un ENT. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez peu répandu, espace numérique de travail. J'ai vu dans la même cité scolaire des élèves de collège et des élèves de lycée. J'ai vu des élèves de lycée se débrouillant fort bien. Ben, je trouvais que c'était pas si mal. Le collègue était relativement naïf sur le sujet, mais il l'avait plongé et ça marchait bien. Il s'était dit une fois, bonne fois pour toutes, que les élèves étaient meilleurs que lui. Bon, basta. Son problème n'était pas là. Sur le plan technique, il faisait confiance aux élèves. Et sur le plan du raisonnement, ben, c'était lui qui pilotait. Et qui donnait les impulsions, qui rectifiait les erreurs de tir. Il est dans son rôle. Et puis, je suis allé voir une classe de collège. Et j'ai été effaré. Parce que les gamins du collège avaient une aisance avec le clavier phénoménale. Qui leur vient de l'usage quotidien du chat, des messageries, de ce que vous voudrez. Mais en tout cas, le numérique ne les effraie absolument pas. Donc, ça veut dire que la révolution numérique, la population, de toute manière, elle est faite. Il n'y a pas à s'angoisser. Les élèves, de toute façon, maintenant, ils sont tombés dedans. Ils sont tombés dedans en étant petits.
Comme Obélix. Oui, j'irais tout à fait dans le même sens. C'est qu'il s'est passé la même chose pour la documentation. On a commencé à apprendre aux élèves à utiliser un navigateur. Aujourd'hui, tous les élèves savent utiliser un navigateur, savent enregistrer un signet et savent à peu près se débrouiller sur Internet. Sauf que l'éducation à l'information reste une compétence importante à apprendre à l'école. C'est-à-dire comment je me repère, comment je traite l'information. Les systèmes d'information géographique sont des systèmes d'information. C'est-à-dire qu'il y a une éducation aussi à traiter la donnée, à comprendre la donnée. Et je crois que ce sont ces compétences fondamentales qui, pour l'instant, ne sont peut-être pas reconnues tellement à l'école. C'est quand même d'abord apprendre à lire, écrire et compter. Hein. Là-dessus, on a des disciplines qui se diversifient à partir du secondaire, mais on a des compétences fondamentales, on a un socle, comme aujourd'hui, qui ne prend pas en compte l'analyse spatiale, qui ne prend pas en compte la navigation dans ces outils-là. Or, dans le grand public, comme vient très bien de le dire Guy Ménant, dans le grand public, il y a des usages qui sont en train de très vite se répandre. Et donc, à la limite, c'est plus un problème. Si, c'est un problème parce que on a aussi, en tant qu'éducateur, on a aussi l'éducation à l'environnement, l'éducation à l'information, ce sont des choses qui peuvent aller de pair. Parce que finalement, le citoyen aura besoin de plus en plus de se repérer, soit parce qu'il y a une autoroute qui se construit à côté de lui et donc il faut qu'il sache lire les cartes, les études d'impact qui ont été faites par la DDE ou par l'environnement, les actions de l'environnement, soit parce qu'il aura aussi à participer d'un point de vue professionnel à l'élaboration d'outils de base de données dans ce domaine-là. Donc je crois qu'il y a des débouchés professionnels, il y a des usages grand public. Donc on arrive, aujourd'hui, il y a une banalisation de ces outils, mais pas de l'usage de ces outils. C'est-à-dire qu'il y a une familiarisation avec le clavier, avec la lecture à l'écran, mais pas de ce qu'on en fait en termes d'usage et d'apprentissage. Et c'est là que les questions sont fondamentales.
Il y avait une question au fond, donc je crois que c'est Cécile Dejoie, c'est ça ?
Oui, non, c'était une réaction par rapport à ce que disait Yvon Carlo. Par rapport au côté chronophage, deux choses. Moi, il me semble que effectivement, ce qui prend énormément de temps, c'est la constitution d'espace de travail. C'est ce que disait aussi M. Joliveau ce matin. Et que peut-être que les spécialistes passionnés dont nous sommes certains ici, on peut mettre à disposition en fait des espaces de travail avec des données, avec un format qui soit assez large pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et puis que ça incitera des collègues à s'y mettre, hein, parce que c'est cet aspect-là qui rebute quand même beaucoup dans le SIG, ce qui est normal. Donc cet aspect-là, c'est vrai, c'est à mon avis dans ce sens-là qu'il faut aller, déjà d'une part. D'autre part, je pense qu'en histoire-géographie, je ne sais pas, mais moi j'ai été très surprise d'apprendre qu'en SVT, le programme était en seconde était conçu de manière à ce qu'il y ait 6 semaines de l'année où en fait on pouvait développer autre chose, quoi. Alors moi j'aimerais bien que nos programmes d'histoire-géographie soient aussi conçus pour nous laisser cette marge. Parce qu'il y a quand même une contradiction entre l'incitation au TIS, au lycée, qui est en toutes lettres en général dans toutes les instructions officielles de seconde, de première et de terminale. Il y a une incitation à utiliser les TIS en histoire géo. Mais il n'y a pas une incitation à la pédagogie de projet, à des choses menées à long terme. Et au contraire, on va aujourd'hui en histoire géo à l'envers de ça. Hein. On va dans beaucoup de contenus, beaucoup de programmes qui sont très lourds et qui ne passent pas par une pédagogie où l'élève est vraiment acteur. En tout cas, ça ne me semble pas qu'on aille vers ça aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est quand même un frein à l'utilisation aussi du SIG. On l'a bien vu, en TP, en SVT, je comprends bien que ce soit possible en plus petits groupes. Moi, à part en module en seconde, aujourd'hui, je ne vois plus très bien quand est-ce que je peux utiliser les SIG. Ou parce que j'ai la chance d'être dans un établissement rural à petits effectifs et qu'il m'est arrivé d'avoir des classes de 20 élèves où là, j'ai mené des projets intéressants. Mais je ne pourrais pas faire ça dans une classe de 35, c'est clair. Et certainement pas en terminale. Alors là, c'est même pas la peine d'y penser.
Sur ce sujet, n'étant pas historien géographe, il m'est difficile de prendre une position très, très claire et très catégorique. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il faudrait... Bon, nous avons effectivement clairement des séances de travaux pratiques avec des salles spécialisées et qui sont un atout. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est l'évidence même. Mais ceci dit, on a aussi des programmes qui sont très lourds. Et qui sont perçus comme tels. Et donc, on jongle entre les deux. Mais on essaye à chaque fois de ne pas aller trop loin, de mesurer jusqu'où on peut lâcher la bride à l'élève sans perdre de temps pour autant. Et d'identifier les moments où ça vaut vraiment la peine. Là, par exemple, nous avons l'équivalent d'un SIG rustique. Mais qui était quand même déjà un début, c'est la base de données sismologue, base de données de séisme. En quelque sorte, c'est un SIG, mais un SIG à trois couches, c'est tout, enfin deux couches même. Il y a la topographie, puis il y a la position des foyers sismiques. Les élèves, dans un premier temps, ont été entraînés à utiliser cet outil de façon très directive. On leur disait, vous allez pointer à tel endroit, puis à tel endroit, vous tirez une coupe, vous faites la mise en évidence de la position des foyers, vous mettez en évidence la zone de subduction de tel endroit. Petit à petit, maintenant, les choses ont évolué. Tout le monde s'y est fait, y compris les professeurs, et on sait que l'intérêt d'une base de données, c'est que l'élève puisse aller, comme je le disais tout à l'heure, explorer tout seul. Donc on lui dit plutôt, la zone de subduction, on a déjà étudié ça sur tel exemple, voilà ses caractéristiques. Essayez d'identifier quelque part dans le monde un endroit où vous pourrez démontrer que c'est aussi une zone de subduction. Mais dans le temps, c'est très contraint. On sait que si au bout de 10 minutes, ça n'a pas avancé, il y a un problème. Donc on ne va pas perdre de temps, vous voyez ? On ne va pas perdre de temps. Mais on développe quelque chose qui est complètement différent du scénario traditionnel. On développe l'aptitude de l'élève à choisir dans la base de données gigantesque, extrêmement riche, on développe son aptitude à gérer et à utiliser une base de données. Vous voyez ? L'autonomie est l'objectif principal.
Oui, je pense qu'en SIG, ce qu'on essaye de développer aussi à Dijon, maintenant, c'est des séquences qui fassent une heure et demie maximum, où l'élève doit choisir dans une base de données géographique quelles sont les couches qui doivent lui servir pour répondre à la question posée, et puis faire une requête ou utiliser un aspect du SIG. Et je pense que c'est ça le but. Et puis on ne va pas le faire trois fois dans l'année, on va le faire une fois sur un thème qui est intéressant, ou deux fois, une fois en géo, une fois en histoire. C'est sûr qu'il faut évoluer vers ça. Il faut faire comprendre aux collègues aussi. C'est ça qu'on fait quand on fait du SIG, parce que dès qu'on parle SIG, je pense qu'il y a vraiment une crainte du truc hyper lourd qui va planter. On voit ça en stage. Quoi.
D'où l'intérêt d'avoir des objets simples.
Il y avait une question, une remarque devant.
Oui, c'était pour rebondir sur la chronophagie. Je pense qu'il y a la chronophagie devant les élèves.
Je vois pas le nom, donc je peux pas l'annoncer. On ne se connaît pas.
Donc Caroline Tambarou, l'Académie de Rouen.
Voilà,
sur la chronophagie, il y a la chronophagie en classe, mais moi je vois en formation, très souvent les collègues se plaignent, alors c'est général Otis, de la chronophagie du temps de l'enseignant, c'est-à-dire de la prise en main des outils. Et je vois beaucoup de collègues qui voient passer des exemples, des articles sur les SIG, et qui disent, oui mais moi qui va me former à l'outil, qui va m'expliquer, parce que c'est des gens qui n'ont pas été formés à l'université sur les systèmes d'information géographique et pour cause, et qui aimeraient bien les utiliser, mais alors l'éducation est nationale, mais les plans de formation sont académiques, et je crois qu'il y a des très très grandes disparités, et la formation à l'outil, et à mon avis, c'est quelque chose qui manque dans beaucoup d'académies.
D'accord. Attends.
Oui, il y a une autre question encore, oui, juste derrière, voilà.
C'est pour répondre un peu à la collègue sur la question de l'histoire-géographie. Pour dire que c'est vrai que nous avons des programmes en histoire-géographie, que ces programmes sont relativement cadrés dans la mesure où les documents d'accompagnement se sont développés et tout cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'ils ne sont pas si lourds que l'imagine en général la majorité de nos enseignants, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une relative incompréhension qui court et qui flotte. C'est-à-dire que nos enseignants ont tendance à lire ces programmes à la lettre, si je puis dire, alors qu'ils sont conçus pour qu'ils tracent un itinéraire à l'intérieur de ces programmes. Et je crois que cette idée-là de la liberté qu'ils ont de tracer cet itinéraire n'est pas bien comprise encore. Elle a du mal à s'installer parce que peut-être qu'elle est un peu nouvelle ou peut-être parce qu'on n'a fait pas une très bonne pédagogie là-dessus. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire, quoi. C'est qu'en fait, notamment par exemple dans le programme de seconde qui se fait par un programme d'études de cas, les collègues, normalement, sont censés choisir une étude de cas. Ils ont toute liberté pour le faire. Ils peuvent y consacrer beaucoup de temps. Et on leur demande une simple contextualisation à partir d'hypothèses qu'ils auraient tirées. Donc, c'est limité. Ça leur donne beaucoup de temps et de liberté, y compris dans le choix des outils qu'ils vont utiliser. Mais ce qu'on voit dans les classes, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que les collègues font un rapide exemple qui, quelquefois, ressemble vaguement à une étude de cas dans un temps très limité, une heure, deux heures à peu près, et ensuite ils refont un cours, le cours général sur la question, et qui prend énormément de temps. Voilà. Et donc évidemment l'ensemble des deux, c'est colossal, et on a très souvent ce type de pratique. Et peut-être que justement en disant il faudrait utiliser des SIG comme ça, ça nous permet aussi de dire vous pouvez le faire parce que en fait vous avez plus de temps de liberté que vous ne croyez dans le programme.
Voilà. Intéressant là, ce qui vient d'être dit, parce que la dimension expérimentale que nous avons assez peu finalement en géographique, qu'ont beaucoup plus les naturalistes. L'aspect TP aussi, effectivement, on a du mal à conduire comme un TP. On n'a pas toujours accès aux salles également, mais c'est vrai que là derrière se posent des questions de fond sur comment mettre en place un TP, une étude de cas, où les élèves sont vraiment dans une démarche d'investigation, de recherche d'informations, de traitement, en autonomie, et on a du mal à le faire, peut-être parce que par culture aussi, le naturaliste au départ, c'était quand même le géologue qui allait sur le terrain et avec son pic et qui regardait la roche, etc. C'est vrai qu'il y a cette culture très forte chez naturalistes qu'on a moins. Nous, l'espace est quelque chose d'un peu plus abstrait quand même. Alors, on va sur le terrain de temps en temps, mais rarement. Sur la formation, peut-être quand même revenir sur la formation, parce qu'il a été plusieurs fois question de la formation. Moi, j'ai juste un petit témoignage très modeste. Dans l'Académie de Lyon, ça fait maintenant 6 ou 7 ans que j'essaye, à travers des stages de cartographie, de faire une initiation au SIG. Ce que je vois, je crois que c'est propre à la formation continue actuellement, c'est qu'elle est un peu en crise et pour des raisons multiples, les enseignants ne peuvent pas venir ou ne peuvent pas réinvestir dans leur classe. On a des problèmes d'assiduité, des problèmes multiples d'accès aux données, etc. qui fait que je crois qu'il ne faut pas trop miser sur la formation continue actuellement parce qu'elle va mal. En tous les cas, quelque chose qui est récurrent, c'est qu'on voit très bien que des enseignants qui ont une démarche de renouvellement de leur pratique, et donc qui sont prêts à d'abord investir des petits outils qui sont à leur portée et qui progressivement, et c'est en cela que ce kit pédagogique tout à l'heure est intéressant, parce que progressivement on voit bien qu'il y a une démarche, ils ne vont pas venir au SIG comme ça. D'abord ils ont utilisé des petits logiciels de cartographie. Je pense qu'en SVT, ceux qui ont déjà traité des données sur des logiciels de traitement de données, c'est une très bonne initiation, parce qu'ensuite ils vont vouloir aller plus loin. Mais tant qu'ils n'ont pas franchi ce seuil, je crois qu'il y a des effets de seuil. Il ne faut pas regarder les choses de manière linéaire. Il n'y a pas une progression linéaire entre l'enseignant de base qui va ne pas aller dans les TIS et puis celui qui va ensuite s'y mettre progressivement. Non, il y a des seuils. Et tant qu'on n'a pas franchi certains seuils, qui sont des seuils psychologiques aussi, mais je crois que, en fait, je veux la donnée de la région où je suis et je veux pouvoir interroger, traiter pour monter ma propre étude de cas. Vous avez combien d'enseignants qui montrent leurs propres études de cas? Souvent, c'est l'étude de cas du manuel, c'est l'étude de cas trouvée sur Internet. Mais l'enseignant qui dit « moi, je veux monter l'étude de cas qui m'intéresse avec mes élèves ». Et là, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un déclic. Et donc, il y a une demande. Et donc, ils vont venir en stage. Et là, il y aura un peu de réinvestissement. Mais il y a un seuil. Et ce seuil, tant qu'il n'est pas franchi, je crois qu'on peut faire toutes les formations qu'on veut. J'ai retrouvé des tas de collègues des années après qui m'ont dit « c'était très intéressant ton stage, mais on n'a pas réinvesti ». Alors, ils avaient toutes les bonnes raisons du monde. Mais quand même, la principale raison, c'est qu'ils étaient passés motivés eux-mêmes pour changer et pour aller chercher eux-mêmes ce dont ils avaient besoin.
pour rejoindre ce que tu dis, là, moi j'ai constaté sur 3 académies différentes dans ma pratique en montant les plans de formation que si on affiche un stage sur l'outil, bon, le SIG habituellement, ça ne fonctionne pas, soit parce qu'on n'a pas d'inscrits, etc. Même si on affiche des stages qui sont plus sur le multimédia en général, etc., c'est pas ce qu'attendent les collègues. Moi, j'ai constaté que ce qui fonctionnait le mieux, c'est lorsqu'on affiche un stage thématique. On profite de renouvellement de programme, etc. On affiche un stage thématique, que ce soit l'Asie orientale ou ce que vous voulez. Enfin, bon, en général, il faut cibler quelque chose sur lequel ils ont du mal à trouver des données, des ouvrages. Et à ce moment-là, on monte un stage diversifié. Et à un moment du stage, eh bien, on propose une étude de cas avec un SIG. Et là, les collègues adhèrent et en redemandent. Et ça fonctionne très bien. Et voilà. Mais il ne faut pas que ce soit affiché.
D'où le rôle moteur de l'inspection pédagogique.
Elle essaye. Elle essaye.
Il y a une question donc, au fond de la salle.
Une question qui rejoint pas mal de choses qui ont été dites là au point de vue de la pratique de l'enseignement dans nos classes et puis de la formation initiale ou de la formation continue. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi essayer de réfléchir et de raisonner plus globalement en termes de risque et de prise de risque ? Parce que finalement, c'est de la prise de risque par rapport au programme, c'est de la prise de risque par rapport à la mise en situation face aux élèves, c'est de la prise de risque par rapport à un tas de choses qui vont, à un moment ou à un autre, peut-être être un petit peu difficiles. Est-ce que ce n'est pas aussi ces risques que l'enseignant imagine devoir surmonter et en tout cas auxquels il devrait se confronter, qui l'empêche de s'inscrire à certaines formations continues? Et c'est un problème qu'on peut poser pour le cadre des SIG, pour le cadre des TIS beaucoup plus largement et de toute pratique d'enseignement. Est-ce qu'une réflexion, est-ce que aussi un travail dans la formation sur cette notion de prise de risque permettrait pas de passer dans l'explicite, parce que aujourd'hui, tout au long de la journée, on a parlé d'enseignants qui hésitent, on a parlé d'enseignants qui osent pas ou qui reculent ou qui attendent un petit peu. D'un autre côté, on a parlé d'îlots de compétences, d'îlots de motivation qui, ici et là, amènent à des pratiques innovantes et sèment un petit peu autour d'eux, mais on est très loin d'une pratique homogène, même en général au niveau des TIS. Et donc, voilà, cette approche en termes de risque explicite aiderait peut-être un certain nombre d'enseignants débutants dans ces disciplines.
Oui, bon, je voudrais, oui, je peut-être aller, bon, ne croyez pas que je réponds à côté de votre question, hein, je vais vraiment y venir. Je crois que pour rassurer les collègues, oui, je vais commencer comme ça, on va voir que je suis bien sur le sujet. Pour rassurer les collègues enseignants, ils ont besoin de voir que ce qu'on leur propose, si c'est un peu innovant, si c'est un peu pionnier, ça va améliorer la qualité de leur travail quotidien, mais à tout point de vue. Or, finalement, de quoi ils ont besoin, aussi bien dans la discipline histoire-géographie qu'en SVT. Ce qui nous caractérise, et c'est en ça qu'on est des disciplines qui sont finalement assez proches, c'est qu'on regarde, on étudie des systèmes, pas des objets, on étudie des systèmes avec tout un tas d'interrelations. Donc on essaye d'expliquer des phénomènes, on essaye d'expliquer des évolutions. Tout à l'heure, vous rappelez, j'ai dit un travail à multidimension. Donc on est sur le complexe. Et il ne faut pas que le complexe soit compliqué. Voilà. Alors ça, ce qu'on peut espérer des SIG, c'est qu'ils soient, eux, simples d'usage, au service d'une approche de phénomènes et de supports, d'objets, de cas, puisque vous parlez d'études de cas, et qui, eux, sont fondamentalement complexes. Et c'est pour ça que, finalement, moi, j'ai été vraiment emballé par Google Earth, qu'est-ce que vous voulez. Dans un premier temps, c'est déjà quelque chose qui est assez sécurisant, parce qu'on peut s'y entraîner chez soi, tranquillement, en dehors de toute interférence d'élèves, avec, s'il le faut, l'aide du fils aîné ou du fils cadet, et qui lui a trouvé ça fabuleux et qui jongle avec depuis déjà longtemps. Donc, vous voyez, la formation, malheureusement, pour les TIS, c'est beaucoup comme ça qu'elle se fait. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Elle passe par ce biais-là. Alors, moi, je crois vraiment que ce qu'il faut qu'on évite absolument, si on ne veut pas avoir l'échec, et on le disait ce matin, c'est de refaire le raisonnement Titus.
Parce que là, la complexité est telle que, en effet, les collègues n'ont pas franchi le pas. Après des années et des années et des années de formation et d'incitation, ils ont senti ça comme étant beaucoup trop lourd, techniquement trop lourd. Alors, bon, tout à l'heure, bon, j'ai parlé du fait qu'on a besoin d'outils simples pour étudier du compliqué. Ah non, pour étudier du complexe. Voilà. Alors, une autre chose aussi qui, à mon avis, est à l'origine de la frilosité. Et ça, c'est vraiment typiquement français. Hein. À l'usage, je m'aperçois qu'à côté, chez les voisins, c'est beaucoup moins sensible, bien qu'eux aussi en parlent, de cette frilosité. Difficulté à passer vers des outils ou des méthodes, des techniques pédagogiques dont on n'a pas l'habitude et qui ont comme difficulté qu'elles laissent beaucoup d'autonomie aux élèves et que donc on risque d'être un peu, à un moment donné, dépassé. Alors, ce qui aide, on l'a constaté, c'est quand, au lieu que la production du professeur soit considérée comme un acte individuel, personnel, qui se passe dans sa classe et strictement dans sa classe, dès qu'il y a mutualisation et travail d'équipe, ben les choses vont un peu mieux. On est moins frileux quand on est plusieurs à avoir travaillé sur une innovation et à se dire, bon, on prend un risque, c'est vrai, mais on le prend à plusieurs, quoi. Et on sera plusieurs à ramer si jamais la vague est trop forte. Alors, il faut absolument sortir de la formation individuelle d'un professeur et qui est intéressé, qui vient tout seul et qui, après, éventuellement, va peut-être diffuser s'il est passionné, mais il est le seul à avoir eu le message. Donc, le message va être dilué et ça passe pas. Donc, je crois qu'il faut, former des équipes. Voilà, il faut former des équipes.
Oui, je voulais revenir sur ça. Il y a des éléments structurels en France. Un prof anglo-saxon, dans la plupart des cas, il se trouve qu'il arrive le matin à 9h dans son établissement scolaire, il en repart à 17h ou 18h. Il a eu quelques heures de cours, mais il a un bureau sur place, il a pu discuter avec ses collègues, il a pris le thé en salle des profs, et au moment du thé en salle des profs, il a discuté du DSIG qu'il avait vu, il l'a partagé avec son collègue. Enfin, on n'est pas du tout dans cette situation en France, où également les enseignants, avec leurs élèves, ont l'habitude depuis très longtemps de conduire des démarches de projet, c'est-à-dire qu'ils considèrent que leur enseignement ne doit pas être axé sur des savoirs, mais essentiellement sur des compétences. Alors peut-être qu'ils forment des élèves bacheliers qui sont moins performants que les nôtres au niveau des connaissances, mais par contre, ce sont des élèves qui sont souvent très, très autonomes et qui, finalement, au bout du compte, finissent par les rattraper. Alors, je l'ai vu ça en particulier en Nouvelle-Zélande, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un à table, où on a l'impression qu'un élève néo-zélandais de 18 ans, il ne sait pas grand-chose. Alors, c'est impressionnant parce que les néo-zélandais produisent autant d'ingénieurs que nous, donc il se passe quelque chose ensuite, et je crois que ce n'est pas la faute des profs de lycée, ce n'est pas la faute des profs de fac, c'est simplement une autre façon de former nos élèves. Et les TIC vont interroger notre manière de procéder fondamentalement au niveau du travail de l'enseignant, au niveau... Il y a une interrogation profonde sur ce qu'est être un enseignant au XXIe siècle. Et je pense que c'est une question dont il faut se saisir, parce que si on la subit, on s'en saisit pas, ben on va la subir.
Bon, ben voilà, une des choses que je voulais dire, il l'a dit. C'est... Bon, il ne faudrait pas non plus faire de l'autoflagellation. Notre système éducatif a un certain nombre d'atouts qui sont reconnus et qui font qu'on nous demande d'ailleurs d'intervenir comme experts pour fonder des systèmes éducatifs émergents. Mmh. Et la France est très appréciée. Elle est très appréciée justement pour le niveau d'excellence sur les savoirs, mais également sur la façon de mobiliser ces savoirs. Par contre, là où par rapport aux anglo-saxons, on est effectivement un peu en retrait, et ça se voit dans les évaluations PISA, c'est dans l'aptitude que l'élève peut avoir à réagir dans un contexte voisin du quotidien et à mobiliser ce qu'il a appris à l'école. Donc, nous, on est scolaire, quoi. Voilà, un peu trop. Bon, peut-être, c'est vrai que... Mais on évolue. On évolue beaucoup. Non,
gardons nos atouts, et prenons soin des autres.
Hein. Voilà, 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 c'est ça, exactement. Exactement. Donc, c'est pour ça que dans notre discipline que vous disiez expérimentale, là, tous les deux, l'intérêt de notre formation expérimentale commence à être vraiment sensible quand... on laisse l'élève imaginer ce que va pouvoir donner tel ou tel protocole à partir d'hypothèses initiales, l'autonomie. Et les bases de données, si l'élève n'est pas autonome dans les bases de données, ce n'est pas la peine de lui fournir une base de données.
Nous avons un logiciel, une base de données, et qui fournit des séquences de gènes. Au début, quand ce logiciel a été lancé dans les établissements, les premiers usages que j'ai observés, c'est va sur telle icône, clique ici. Vous aviez toute une série de consignes extrêmement précises en cascade. Et au bout du compte, l'élève avait pour production l'affichage de deux séquences de gènes, l'une au-dessus de l'autre. Et la consigne juste derrière, c'était recopie sur ton cahier. Vous voyez ? C'était très décevant. On a largement dépassé ce stade-là maintenant et depuis pas mal d'années.
Alors, deux interventions, puis on passera au thème suivant.
Oui. Oui, alors, je voulais rebondir sur l'outil simple. L'outil simple qui pourrait être Google Earth. Alors, ça a le défaut de sa qualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un outil simple et grand public, il y a toute une série de collègues qui savent pertinemment que les élèves maîtriseront l'outil mieux qu'eux. Et ça, c'est un gros facteur de paralysie. Ça, c'est vraiment un gros facteur de blocage par rapport à Google Earth. Et il y a une toute petite fenêtre de temps par rapport à Google Earth. C'est-à-dire que dans un an, deux ans, la diffusion chez nos élèves sera telle que, ça y est, l'avance des élèves sur les collègues, la plupart des collègues, sera importante et ça va vraisemblablement bloquer certains. Donc on a une toute petite fenêtre de temps.
Je peux réagir là-dessus ? Oui, bien sûr, oui, puisque c'est la question qui t'est adressée.
Bon, je crois que si on ne dépasse pas l'idée que le professeur n'a pas à être plus expert que l'élève sur des outils qu'il utilise au quotidien, effectivement, on restera coincé. Donc, il faut absolument se dire, l'élève arrive, il est à l'aise, très bien, raison de plus pour lui lâcher la bride. On lui donne des consignes et il fait ce qu'il doit faire. Et il le fait, il va aussi loin qu'il peut aller en fonction de l'expertise qu'il a acquise tout seul. Notre but, c'est justement que l'outil en question devienne un outil complètement transparent. On ne va pas lui tenir la plume pour qu'il écrive. Eh bien, on ne lui tiendra pas non plus la souris pour qu'il aille naviguer sur son SIG. Et le professeur se concentrera sur ceux pour lesquels il apporte réellement une aide et une valeur ajoutée. Et puis, on essayera de construire des séances où le tutorat entre élèves fera qu'on se débloque entre nous, entre pairs. Et la logique Internet, maintenant, c'est ça. C'est plus la relation entre pairs qu'aller chercher systématiquement auprès d'un maître. Donc, il y a en effet un positionnement du maître dans la classe et qui doit évoluer avec ce type d'outils. Mais il faut penser. Ce que je vous disais tout à l'heure à propos des élèves, c'est vrai aussi pour nos collègues. Entre les jeunes collègues qui arrivent là, juste en sortant d'UFM, et ceux qui ont mon âge, je vous garantis qu'il y a une sacrée différence. Voilà.
C'est-à-dire qu'il faudrait, arriver à... Pardon, je voudrais vraiment intervenir parce que c'est un peu au cœur de ce qu'on mène actuellement comme réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, la connaissance, elle n'est pas dans le SIG, la connaissance géologique ou géographique. Mais le référent géologique ou géographique, ça reste l'enseignant dans la classe. Le SIG, c'est simplement un outil qui permet d'attaquer la connaissance. Et le prof, il peut servir simplement de guide en disant, attendez, là, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas valide d'un point de vue scientifique parce que vous êtes en train de mapper la carte de France sur la Belgique et que ça ne va pas. Voilà, ce genre de choses. Alors, il y avait plein de... Oui.
Il y avait une réaction au fond.
Si vous pouvez faire circuler le micro quand même chaque fois pour qu'on puisse bien s'entendre.
Juste un petit mot. Concrètement, comment on fait? On dit l'enseignant devrait se sentir plus à l'aise face à des élèves qui sont plus performants que lui sur tel ou tel outil, l'enseignant, etc. Concrètement, comment on convainc les collègues qu'effectivement, ce n'est pas forcément un problème? Comment on fait passer le message? Parce que on sent bien, quand on est dans cette pratique depuis un moment, on sent bien que c'est là peut-être le nœud du problème, de l'extension de ces pratiques. Et comment on fait concrètement si on est collègue, entre collègues, si on est formateur, si on est inspecteur peut-être aussi, comment on fait concrètement pour faire passer le message, pour rassurer les collègues et faire passer le message.
D'ailleurs, des formateurs ou des inspecteurs dans la classe, dans la salle,
lapsus,
qui peuvent peut-être donner des éléments. Yvan, vous voulez réagir?
Oui.
Alors justement, sur ce problème de la formation initiale, alors je suis moi un peu moins optimiste que vous, monsieur l'inspecteur général, sur la nouvelle génération qui arrive et qui est peut-être plus habile à manipuler Internet ou les TICE. Mais en termes de pratiques pédagogiques, il reste encore très bloqué par des représentations mentales. Et moi, ce qui m'affole un peu au bout de je ne sais pas combien d'années de formateur, de voir que on a toujours ces mêmes résistances par rapport au TICE, par rapport à cette... Parce qu'on leur demande beaucoup de choses en même temps. À la fois changer leurs pratiques, changer de démarche, utiliser de nouveaux outils, changer les programmes, et ils ont l'impression de devant un monde inconnu et nouveau, et ils ont une véritable réticence. Et Sylvain, tout à l'heure, rappelait ces formations de même continues pour sur les SIG, mais en formation initiale c'est la même chose. On a beau leur montrer que ça, on peut avoir rendre l'outil transparent, qu'il s'agit simplement de compétences et qui mettre en place des démarches, en particulier le raisonnement géographique, eh bien ils disent oui, d'accord, très bien, mais moi, il faut que je gère des classes difficiles, il faut que je gère les programmes, il faut, etc. Et en plus de ça, avec une incompréhension du... Pas unique, bien sûr, il y a le rôle des inspecteurs, hein, inspecteurs généraux et IPR, mais il y a aussi la résistance des chefs d'établissement qui sont aussi facteurs bloquants de l'innovation. Et je crois que globalement, aussi bien les collègues déjà en place que les nouveaux, ils ont une certaine peur de l'innovation.
Plein d'autres questions, Caroline.
Moi, j'ai juste une remarque à faire qui vient de mon expérience à l'intérieur de mon établissement. Pratiquement personne pratiquait les TIS quand je suis arrivée. Je me suis lancée dedans. Et en fait, maintenant, on fait des. D'abord, il y a simplement des collègues qui sont venus dans la. Je laisse la porte ouverte quand je suis en salle informatique. Ils rentrent, ils voient comment ça se passe. Mon chef d'établissement est rentré un dernier jour d'école. Ils m'ont dit : vous jouez ? Il a dit, vous jouez ? Les élèves ont dit, mais pas du tout, monsieur, nous travaillons, venez voir. Une classe absolument bordélique, etc., qui était en train de bosser. Donc il y a la démonstration par l'exemple, on ouvre la porte. Et puis il y a aussi la formation entre pairs, tout simplement. Donc moi maintenant, j'organise des files, des formations initiatives locales sur les TIS, pas sur les SIG, mais sur les TIS, sur certains, voilà, les formations HTML, etc., des choses précises. Et puis, entre nous, bah, on se montre un truc. Je crois que le partage, la mutualisation aussi, ça peut être juste ça. Ça a super bien marché, ma séance. Viens voir. Voilà, là, Caro, elle a fait une visite virtuelle de Château Gaillard que j'ai utilisée en classe. Ma copine, Caroline aussi, prof d'histoire géo dans mon établissement à moi, est venue dans ma classe voir comment ça se passait. Et la prof d'allemand qui passait dans le couloir, elle dit, qu'est-ce que vous faites ? Il y a les élèves qui l'ont dit, ben voilà, ça se passe comme ça. Donc je pense que ça passe aussi tout simplement par le contact.
On va peut-être prendre... finalement, on était parti sur le recueil, le chronophagie, le recueil d'analyse de données. On a beaucoup basculé sur la formation, mais on se laisse guider aussi par nos préoccupations principales. Je crois que la formation est forcément une préoccupation importante en cette période de vache maigre. Donc peut-être quand même une dernière intervention sur ce thème-là, et puis on essaie de passer sur un autre thème.
Pour dire que dans ce domaine de la formation, il va y avoir quand même un gros changement, puisque peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais au mois de janvier, au BO de janvier, est paru le texte sur le C2I2E, bon, qui est un certificat de compétences professionnelles dans le domaine des TIS pour le monde enseignant, qui touche tous les aspects du travail de l'enseignant, dans la classe et hors de la classe. Les compétences sont définies de manière précise. Dès l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, ce sera... c'est l'année prochaine, là c'était encore expérimental cette année. Cette année, c'était encore expérimental, mais presque tous les IUFM ont en fait joué le jeu et toutes les cohortes ont été concernées. Mais l'année prochaine, on rentre vraiment dans l'obligation juridique. Donc là, tous les jeunes qui vont passer en IUFM vont donc avoir... avec tout le reste dans leur formation, des compétences TIS validées. Donc il y aura une reconnaissance de la compétence TIS en tant que compétence professionnelle, ce qui n'était pas du tout le cas actuellement. Je veux dire, ça n'entrait pas dans la qualité dite de l'enseignant d'avoir une maîtrise ou pas. là, ça va rentrer. Donc, je pense que ça sera quand même quelque chose de nouveau, d'important, qui va obliger tous les collègues à s'interroger aussi sur ces compétences-là.
C'est quelque chose d'absolument fondamental. Je suis vraiment contente que vous l'ayez dit, parce que j'aurais été obligé de le faire. Donc, merci beaucoup. Il y a le C2I, et puis, il y a le B2I, ça, tout le monde le connaît. Le fait que les compétences utilisant les technologies sont dans le socle commun est également quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Le socle commun des connaissances et des compétences de la fin du collège, enfin à la fin de l'enseignement obligatoire, font que la maîtrise des technologies de l'information et de la communication sont hissées au rang des langages fondamentaux. Ce qui est complètement compréhensible au XXIe siècle et en fonction de tout ce qu'on dit depuis ce matin. Donc, ça devient quelque chose non seulement de naturel, mais c'est un passage obligé. Tout professeur, de la même manière qu'il a pris à cœur de vérifier que quand il fait rédiger quelque chose à ses élèves, cette rédaction est à peu près correcte, en français correcte, parce qu'il y a l'enjeu de la maîtrise de la langue. Bon, on le fait certainement en histoire-géographie, on essaye de le faire en SVT, la maîtrise de l'écrit et la maîtrise de l'oral. Mais il y aura aussi la maîtrise des TIS, voilà.
Alors, ça nous donne une bonne transition par rapport au thème 5. Justement, de la formation des enseignants, on passe finalement à une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler une situation d'apprentissage instrumenté. C'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, parce que dans le C2I, il y a typiquement les deux entrées. Il y a l'entrée par l'outil, hein, il y a des compétences qui sont de l'ordre de la maîtrise technique de l'outil. Il y a des compétences aussi qui relèvent d'usage, qui sont un peu sur un niveau différent. Et quand on met en œuvre ces activités-là, je crois que, et tout à l'heure on a déjà un peu abordé ce thème, mais de manière un peu en filigrane, le rapport au métier. L'enseignant, jusque maintenant, c'était essentiellement quelqu'un qui se pensait comme ayant une expertise en termes de savoir dans sa discipline, et donc pouvant être un référent. Mais aussi, de plus en plus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un nouveau rapport au métier d'enseignant qui est d'accompagner, on le dit souvent à propos d'Étis, hein, c'est un peu un truisme, hein, d'être un tuteur, un accompagnateur, mais plus que ça, je dirais presque quelqu'un qui met en scène de l'activité instrumentée. Parce que aujourd'hui, un enseignant ne se conçoit pas tellement comme quelqu'un qui fait du scénario pédagogique. Nous, ici à l'INRP, on a une équipe Praxis qui réfléchit notamment en termes de scénario d'usage. Ce mot de scénario, il est un peu connoté, hein. Il n'est peut-être pas très bien choisi, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que à partir du moment où il y a une situation d'apprentissage et qu'il y a un instrument, il y a forcément médiation de la relation pédagogique. Et cette médiation, elle ne va pas de soi. C'est-à-dire que il y a des nouvelles relations à construire entre d'une part l'enseignant et l'instrument, mais aussi entre les élèves et l'instrument. Nous avons eu un colloque récemment sur la genèse instrumentale, je ne vais pas rentrer dans des détails là-dessus, mais on réfléchit beaucoup à l'INRP sur à travers l'artefact qui est la maîtrise de l'enseignant, comment finalement il arrive à s'approprier et à construire des schèmes, c'est-à-dire des démarches fondamentales. Et je crois que c'est ça qui est en jeu dans le C2I. Hein. Il faut faire attention, ce n'est pas un référentiel instrumental en tant que tel, le C2I. C'est un référentiel de compétences instrumentales en vue d'apprendre autrement. Des compétences, alors bien sûr, professionnelles, on est sur une certification professionnelle, on est tout à fait d'accord. Exactement. Et donc je crois que j'étais responsable des TIS à l'UFM de Lyon pendant 5 ans, et j'ai eu à réfléchir sur la mise en place du C2I niveau 2, et justement, ce qui revenait constamment à travers le débat avec les formateurs, les enseignants, c'est justement ce problème-là. Parce que dans notamment le troisième item qui concerne la maîtrise des compétences techniques dans le champ disciplinaire, donc l'intégration vraiment didactique, hein, pédagogique et didactique de l'instrument, il y a une vraie réflexion. Parce que tout à l'heure, on est très ambivalent dans notre discours. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut faire comme si l'outil était transparent, comme si il faut des outils très simples pour gérer la complexité. Puis d'un seul coup, on est en train de dire oui, mais il faut quand même des compétences, il faut quand même une prise en main. Donc on ne peut pas effacer. Je vous rappelle qu'on est aussi très ambivalent en France. On est un des rares pays, comme on a été un des premiers avec Informatique pour tous dans les années 80 à informatiser l'école, et qu'on est revenu très fortement de cette expérience en disant il ne faut pas passer par l'apprentissage de l'outil. On se retrouve pratiquement le seul pays européen à faire comme s'il n'y avait pas d'outil aujourd'hui. Il ne faut surtout pas dire qu'on apprend l'outil. Si vous dites ça, vous êtes inspecté, c'est très mal vu. Donc ne le dites pas. Il faut dire, vous enseignez et avec un outil. Mais je dis ça un peu sous forme de boutade, mais il y a quand même un vrai problème. Je suis allé en Pologne, je peux vous dire qu'ils ont des cours d'informatique. Et il n'y a pas si longtemps, il y avait une option informatique. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais on est très ambivalent dans la façon de dire l'outil est transparent, il faut un outil très simple qui fait tout, et en même temps, on est en train de dire qu'il faut se former, il faut des compétences techniques, il faut des référentiels. Alors, on est dans des choses un peu ambivalentes. Donc, simplement pour dire, par rapport au scénario pédagogique, je crois que quelque chose qui nous unit très fort, si on veut créer une communauté de pratiques, on va y venir après, dans l'observatoire de pratiques géomatiques, on voudrait créer une communauté. Et je crois que ce qui cimente cette communauté, au-delà de notre métier d'enseignant, de formateur ou de chercheur, au-delà de notre rapport au savoir, à l'instrument, c'est le fait qu'on est obligé de scénariser l'activité. Et je crois que c'est important parce que tant qu'on n'a pas cette vision, il y a un scénario d'usage. Tout à l'heure, Géonote, un logiciel qui a été développé dans le domaine des sciences de la Terre. Si un prof de géographie a à l'adapter en géographie pour, par exemple, faire de la lecture de paysage, il va falloir qu'il scénarise là-dessus. Et je crois que c'est très important. Je ne vais pas monopoliser, mais je crois que là, il faut quand même qu'on y réfléchisse. Les situations d'apprentissage instrumenté, il faut rentrer par la pédagogie, il faut rentrer par l'outil en même temps. Et c'est ça qui est difficile.
Pour arrêter Sylvain, et pour faire simple, on a parlé tout à l'heure de la frilosité des collègues. Et on a beaucoup parlé de la frilosité par rapport à la technique. Et en fait, on peut s'interroger aussi si cette frilosité, elle n'est pas aussi liée au nouveau scénario pédagogique, à la nouvelle place de l'enseignant, à toutes ces nouveautés en fait, qui changent complètement. Est-ce que cette frilosité, elle n'est pas aussi liée à ça? Qu'est-ce que ça implique que d'utiliser ces outils?
Oui, il y avait
le micro.
Ah, toujours dans le micro, même si c'est.
Le micro est où?
Si vous pouvez faire passer le micro.
Non, c'est pour qu'on ait l'enregistrement.
Oui. Donc, en fait, bon, simplement, une petite expérience. Donc, en tant que donc, formateur ou ex-formateur, je fais toujours des visites chez les PLC 2. Hein, et je crois qu'effectivement, bon, cette histoire de C2I, il fallait la faire. Mais ça va quand même être assez compliqué. C'est vrai, quand on fait des visites, quand on accomplit déjà des visites en deuxième année, aux stagiaires deuxième année, on se rend compte qu'ils ont du mal à scénariser ce que tu dis, déjà sur des situations d'apprentissage classique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le premier obstacle, c'est d'arriver à prendre une feuille blanche, de construire une activité avec un support papier. Et on s'aperçoit que sur ça, il y a déjà des difficultés énormes d'apprentissage. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai un peu discuté avec des stagiaires comme ça sur la mise en œuvre du C2I, et les échos n'étaient pas très favorables, parce qu'on avait des stagiaires qui étaient noyés déjà par toutes les nouveautés qu'ils doivent traiter dans un laps de temps qui est très bref, quoi, hein. En gros, septembre jusqu'à mai. Et ils ressentaient effectivement le C2I comme quelque chose d'accessoire qui se surimposait déjà à des tas d'autres choses et qui ne maîtrisaient pas. Et déjà, par rapport aux principes pédagogiques de base, effectivement, de l'enseignant conçu comme metteur en scène, comme médiateur, etc., sur des supports classiques, ils avaient déjà du mal. Donc, ça ne sera pas si simple que ça, et ce n'est pas parce qu'on crée le C2I qu'on va forcément avoir des résultats très rapides.
Bon, c'est vrai. De toute façon, le C2I, il faut déjà qu'on apprenne à le faire fonctionner, nous aussi. Hein. Voilà. c'est pas gagné complètement tout de suite, c'est normal. Ceci dit, le C2I, Sylvain l'a dit explicitement tout à l'heure, son objectif, c'est surtout de valider des compétences d'usage. Ce qui n'empêche pas que dans le C2I, il y a quand même la maîtrise effectivement de base de l'informatique, mais ça serait le C2I niveau 1. Le niveau 2, normalement, on est sur un C2I professionnel. Donc, c'est de l'usage. Et alors, dans quel contexte on va utiliser tel ou tel dispositif? Quelle responsabilité personnelle et quelle responsabilité de l'élève on va être capable de construire? Donc, on est sur ça. Alors, sur les outils simples ou pas simples? Franchement, je tiens à y revenir, parce que la compréhension de l'outil informatique, et en particulier, par exemple, un SIG qu'on va intégrer dans ses pratiques comme un outil pédagogique, il faut, et c'est ce que je veux dire quand je dis qu'il soit simple, il faut que son entrée dans la salle n'amène pas tout le monde à se dire « Oula !» le plat va être lourd. Donc il faut que cet outil soit amené dans un contexte et qu'il le rende fluide. Alors il y a des outils qui sont suffisamment conviviaux pour que ce soit le cas. Moi, je veux revenir encore une fois sur Google Earth, parce que bon, on tourne tout le temps en rond autour de lui, puisque c'est finalement l'intrus qui est arrivé dans le paysage et qui a des qualités et des défauts. Ses qualités, c'est sa fabuleuse convivialité. C'est ce que j'appelais tout à l'heure, méfiez-vous des illusions, je ne sais plus comment j'avais appelé ça sur ma diapo, du charme, mais... J'en discutais tout à l'heure avec Naoum Salamé. Tout à l'heure, je n'ai pas été jusqu'au bout de la photo que je vous ai montrée. Quand je vous ai montré la difficulté que j'avais rencontrée en tirant une corde sur le profil dans les affaires. Mais je ne vous ai pas tout montré. Quand je vous disais qu'il y a des trucs qui sont visibles. Et c'est là que ça pose un problème. Parce qu'il faut que les collègues sachent suffisamment quelles sont les limites de l'outil simple qu'on leur a mis dans les pattes. Le lac Assal. Et qu'on voyait en arrière-plan. Tout le monde sait, en SVT, qu'il est largement en dessous du niveau de la mer. Et quand vous faites circuler votre curseur et que vous vous mettez dessus, ça vous affiche zéro. Voilà. Parce que le SIG de Google, il est limité à zéro. Tout ce qui est en dessous du niveau de la mer, il ne connaît pas. Mais ça, ce n'est pas dit. Personne ne vous l'affiche. Attention, nous avons limité notre MNT, notre modèle numérique de terrain, au niveau zéro. Pire, le curseur, quand on le déplace, il donne des altitudes. Et c'est ce que vous aviez fait tout à l'heure. Hein. Il donne des altitudes. Quand on se rapproche du rivage, on passe de 0 à 3 mètres. Mais on est encore plusieurs kilomètres avant la côte. Donc 3 mètres, quelques kilomètres avant la côte, dans la région, c'est quand même un peu surprenant. Ça veut dire que la fourchette de validité, la précision en Z du modèle numérique de terrain de Google Earth, elle est nulle. Enfin, elle est nulle. Elle est très mauvaise, quoi. C'est un très mauvais modèle numérique de terrain. Donc, est-ce que c'est un SIG ? Moi, je vous dis oui, c'est un SIG, parce que, de la même manière qu'ailleurs d'ailleurs que l'InfoTer du BRGM, il permet d'interroger des bases de données en ligne ou résidentes, de les disposer en couches, et on peut mettre autant de couches qu'on veut. On peut aller jusqu'aux 70 couches que vous avez expérimentées dans la zone de zonage. De zonage, voilà. On peut, sans problème, avec Google Earth, on peut. Donc c'est bien un SIG. Ils sont géoréférencés, c'est pas un problème. Simplement, c'est un SIG de qualité plus que moyenne du point de vue de la précision du géoréférencement. Et quand vous commencez à mettre les cartes sur le modèle numérique de terrain, que vous essayez de croiser tout ça, vous vous apercevez qu'il y a des moments où ça ne marche pas bien, qu'il y a des reliefs qui ne sont pas au bon endroit. Voilà. Et ça, c'est quand même un sacré problème. Alors donc, c'est un SIG. C'est vrai, mais il faut en connaître les limites d'usage, parce qu'il faut en connaître les limites. Une dernière chose, finalement, quand on met sur Google Earth une carte ou une photo aérienne qu'on a achetée, qu'on a scannée, au bout du compte, on a l'impression d'avoir fait quelque chose d'un peu bricolé. Mais on n'est pas sûr du tout qu'au départ, tout ce que Google Earth présente n'a pas été construit dans des conditions de bricolage subanalogue. Les photos sont juxtaposées, comme tu l'as montré, mais on ne sait pas du tout comment. Voilà, et comment sont lissées les jointures ? On n'en a aucune idée.
Oui, d'ailleurs, sur la simplicité des outils, moi, il me semble qu'à une époque, on inventait des fonctionnalités, on inventait des techniques pour résoudre des problèmes. On mettait l'ampoule à la place de la chandelle parce que c'était mieux. Et là, on se trouve dans une situation un petit peu inverse où il y a des outils qui sont présents et c'est à nous de les adapter aux outils. Ça pose donc un problème, effectivement, majeur dans l'enseignement. Sur le problème de la validité, effectivement, des outils, moi, je pense que c'est important de montrer aux élèves, C'est important de montrer aux élèves justement la limite de ces outils. Et ce qui est intéressant, c'est le processus avec les élèves de construction donc du jeu de données pour leur montrer qu'il s'agit après tout qu'une construction humaine, que même si Google Earth est visible, ce qui est important derrière, c'est que ça a été fait par un humain et que donc derrière, il y a un regard critique à avoir sur ces outils. Et c'est ça, en fait, l'enjeu au SIG pour moi, qui, pour les élèves. Il me semble qu'ils vont se retrouver face à un géofrancement de l'information. Si on leur affiche un seul restaurant chinois dans leur quartier, il est important qu'ils se rendent compte que c'est parce qu'il n'y a qu'un seul restaurant chinois qui a payé pour être géo-référencé sur Google Earth. S'ils n'ont pas fait ce travail sur les données, je crois qu'ils ils le sauront pas. Et ça pose un problème. Après, ça va plus loin. Je pense qu'effectivement, il y a tout le problème de rigueur scientifique et de validité des démarches qui sont derrière par rapport aux disciplines qui sont concernées. Mais c'est là que est la plus-value de l'enseignant dans la classe. Et c'est encore notre cœur de métier que de pouvoir dire à un moment dans la classe que ce que l'on y fait reste de la géologie ou de la géographie. Sur aussi les simplicités des outils, j'aurais terminé juste là-dessus. Sur GeoNote, on a résolu le problème de manière très simple. On a résolu le problème de manière très simple. C'est qu'on a confié le développement de GeoNote à un master qui devait avoir, je pense, il y a une vingtaine d'années, 22 ans maximum, au Olivier. Et Olivier joue beaucoup aux jeux vidéo. Donc, le pilotage se fait tout à la souris. Roulette, clic droit, clic gauche, comme dans les jeux vidéo. Ce qui fait que quand on a mis ces fonctionnalités devant les élèves, eh bien, ils n'étaient pas dépaysés par rapport à ce qu'ils font habituellement dans les jeux vidéo. Ils ont utilisé ces fonctionnalités. Enfin, on avait les mêmes fonctionnalités, pas les mêmes fonctionnalités, mais le même pilotage qui était derrière. Alors, je crois que, on va être obligé de... Oui, Naoum, je te laisse... Parce que tu n'es pas intervenu, donc mais on est vraiment en bout de journée. Vas-y, Naoum, prends la parole et un micro pour t'exprimer.
Justement, j'étais, disons, interrogatif sur un certain nombre de choses que tu viens de conclure, et en particulier sur la discussion concernant le C2I, les réticences des enseignants, etc. Et je me disais dans ma tête, finalement, les profs qui sont en UFM, grosso modo, ce sont les élèves que vous aviez, sinon l'année dernière, du moins l'année d'avant. Donc, je me demandais un petit peu que les interrogations que l'on avait sur le C2I ne venaient pas un petit peu tard par rapport à une génération qui a les caractéristiques que tu viens de décrire. Voilà, si tu veux, un petit peu... quel était mon sentiment dubitatif du moment.
Juste une toute petite remarque par rapport à ça. Il y a un écart de 5 à 8 ans, finalement, entre ceux qui ont passé le CAPES et ceux qui sont en seconde. Et aujourd'hui, chaque année, c'est énorme. On le voit vraiment au niveau des élèves. D'année en année, je dirais de 2 ans en 2 ans, ils manipulent complètement différemment.
Ah, Benoît, tu as 12 secondes ?
Non, c'était juste une remarque par rapport à l'usage de ces outils. Vous parlez d'intégration dans l'enseignement, dans les apprentissages. Finalement, intégration pour transmettre des connaissances disciplinaires. Je pense qu'il y a une autre dimension de ces usages qui est celle de l'intégration dans l'éducation. C'est-à-dire que ça dépasse les savoirs scolaires. On en a vu des exemples ce matin, par exemple, dans l'éducation à la citoyenneté, éducation à l'environnement, dans le changement des représentations qu'ont les élèves des sciences. Alors, et quand je parle de science, je parle aussi bien de science expérimentale que de science humaine et sociale. Pour moi, l'histoire géo est une science. Donc, il y a ces aspects-là aussi qui sont au-delà du transfert de connaissances, mais d'utilisation de connaissances pour l'expertise scientifique, pour la citoyenneté. Je pense que c'est un volant d'usage qui est complémentaire de l'enseignement et de l'apprentissage, mais qu'il faut intégrer aussi dans la réflexion.
Bon, la tentative qui a été faite au cours de cette journée, pardon, je vais conclure, a été de souder un embryon de communauté autour de cette réflexion autour des SIG. Bon, on sait bien que si l'on se quitte aujourd'hui sans projet commun, cette communauté, elle va éclater parce qu'on a tous nos réalités à affronter, en particulier ce jeudi qui est férié. Donc là, ce que je voulais faire, c'est déjà vous encourager à vous inscrire sur notre liste de diffusion qui permet au moins une diffusion de l'information et éventuellement de porter à la connaissance d'un grand nombre de personnes et vos questions, vos réflexions sur vos pratiques. Et puis, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se fédérer aussi autour d'un projet. Décidément. Parmi les projets qui arrivent, 2008 a été déclaré année internationale de la Terre par l'UNESCO. Et il y a dans ce cadre de cette année de la Terre, vous pourrez aller voir le site, on a mis l'adresse, un appel à projets. Ces projets peuvent être de différentes natures, mais je pense que ça serait intéressant si nous, en tant que communauté de praticiens s'interrogeant sur l'utilisation de la géomatique dans l'enseignement, on pouvait répondre à un appel d'offres de ce côté et puis se fédérer autour, par exemple, de l'organisation d'une manifestation, d'une grande manifestation qui serait autour de ces questions. Il y a d'autres appels d'offres. Donc, Guy Ménon en a parlé ce matin. Il y a l'appel d'offres éventuellement sur lequel l'INRP est susceptible de répondre. Et donc, là aussi, il y a un appel à participation dans les personnes les personnes de la salle qui seraient intéressées, qui ont un peu de temps à consacrer à ça.
Oui, pour compléter ce que dit Eric, ce matin on avait annoncé des objectifs et je voulais les reprendre en même temps parce que ce projet d'année de la Terre, ça donne une perspective à long terme, mais en fait ça permet aussi de faire rejouer les objectifs fondamentaux qu'on s'est donnés ensemble. Donc je vous les rappelle, c'était de dresser un état des lieux. Bon, il ne s'agit pas de faire l'enquête exhaustive, mais quand même on aimerait bien monter quelque chose qui soit un peu au-delà de l'enquête de satisfaction, qui soit de l'enquête, je veux dire, sur des pratiques et avec les atouts, les limites de ces pratiques et de manière interdisciplinaire, c'est-à-dire histoire, géographie et SVT, ça n'a jamais été fait. Donc là, ça nous donne aussi peut-être un objet de travail commun sur une enquête, ce qui serait une enquête nationale qu'on lancerait à la rentrée. Donc si le sujet vous intéresse, on fait un appel à participation sur ce sujet-là.
Je reviens, ouais. je précise un petit peu. On a les outils, c'est-à-dire qu'on a des outils d'interrogation en ligne des enseignants. On a besoin de quoi? On a besoin de gens qui nous aident à construire l'enquête, pour nous aider à construire de bonnes questions qui soient pertinentes par rapport à ce que vous faites, de gens qui testent les questionnaires, de gens qui soient des relais dans les académies, qui puissent nous permettre effectivement d'avoir une idée sur les pratiques. Parce que en général, les évaluations sont assez peu sur des usages. On sait combien le pourcentage d'enseignants d'histoire géo utilisent les TIS dans leur classe ou en ordinateur dans leur classe, mais on ne sait pas ce qu'ils font réellement dans leur classe.
Oui, réaction. Oui, tout à fait. On peut avoir un partenariat avec des associations de l'éducation nationale. Nous, ce qui nous importe, c'est d'essayer de faire avancer un peu les choses. Actuellement, il y a beaucoup d'expérimentations dans différentes académies, sans lisibilité vraiment et sans savoir quelles sont ces pratiques. Et peut-être que c'est l'occasion de faire un état des lieux de ces pratiques-là. Donc ça nous semblait quand même intéressant d'avoir un instrument de mesure. Bon, il vaut ce qu'il vaut, on sait les limites des enquêtes en ligne, mais on a des outils de traitement qui permettent déjà d'affiner, mais après il faut quand même avoir une bonne méthodologie de questionnaire. L'autre objet que je voulais également évoquer avec vous, c'était le fait de constituer un réseau. On en parle toujours des réseaux, mais je crois que c'est un peu ça quand même. Il s'agit bien d'un réseau d'utilisateurs, de concepteurs, de testeurs, d'expérimentateurs dans différents domaines. Et je crois qu'une manière aussi, peut-être un objectif qu'on pourrait se donner, c'est de dire l'an prochain, on refait une journée d'études, mais sur un thème. L'éducation environnement ou un thème qui soit transversal, histoire-géographie. Je vois Yvan qui lève la main tout de suite. Oui, tout à fait. On n'est pas exhaustif aujourd'hui. On est en train déjà d'apprendre à se connaître, d'essayer de constituer ce réseau, une communauté de pratiques et de réflexion. Donc on est bien d'accord qu'on n'a pas du tout épuisé la question, loin de là. On peut continuer à échanger à la fois sur le forum et aussi en présentiel, à échanger sur ces thèmes fondamentaux qui nous unissent, tout en se donnant une thématique, en se donnant un thème d'étude sur lequel on dit l'année prochaine, on produit des séances, on y réfléchit ensemble, y compris en échange sur la liste là-dessus. Et ça nous donne un peu d'objets d'étude, un point commun quand même, parce qu'on a besoin aussi de se rallier autour d'objets communs. Je crois que c'est important. Donc voilà, ce sont des idées qu'on vous soumet. Il n'y a rien de décidé, il n'y a rien d'acté. Donc on voulait prendre simplement un petit moment avec vous pour dire qu'est-ce qu'on décide. Est-ce que ça vous paraît intéressant comme perspective pour l'an prochain? On a la jeune génération qui arrive d'ailleurs, regardez. Alors, en termes d'objectifs, est-ce que, à court terme, est-ce que déjà le fait de préparer un questionnaire d'enquête et le fait de dire on fait une nouvelle journée d'études avec une thématique, et ce sont deux idées déjà qui font écho pour vous ou pas? Oui? Oui. Mais alors, si vous dites oui, ça veut dire que vous venez nous aider aussi. Parce que en disant oui, vous, je vous rappelle, c'est un appel à participation. C'est pas oui, faites-le. C'est, on va vous faire signer un acte d'engagement en sortant de la salle. Bon, donc voilà, c'est oui, on est prêt un peu à, bon, pas tous collectivement, mais un petit noyau de personnes qui seraient un petit peu disponibles. C'est pas toute l'année, mais on essaie d'organiser une journée thématique l'an prochain et on essaie de mettre en place une enquête. Je crois que ça serait intéressant de le faire. Ça donne de la lisibilité également à ce qu'on fait. D'ailleurs, je rappelle qu'Éric l'a dit tout à l'heure, hein, tout va être mis en ligne avec l'autorisation, bien sûr, des participants, hein, mais on va essayer au maximum de mettre en ligne ces débats-là parce que ça nous paraît intéressant aussi que des gens qui n'ont pas pu assister aujourd'hui puissent écouter un petit peu nos échanges. Alors, par rapport à Éric, ce que tu as annoncé sur, l'année de la Terre, est-ce qu'on est capable de dire, voilà, on se donne un objectif moyen, long terme, comment tu vois la chose?
Bah, c'est-à-dire que l'année de la Terre, en gros, ça veut dire que d'ici 4 mois, il faut qu'on ait monté un dossier. Ce dossier doit indiquer quels sont les objectifs qu'on se donne, quelles sont les réalisations concrètes que l'on veut faire, quel écho ça peut avoir. Les attentes du côté de l'UNESCO sont des choses qui sont du côté des nouvelles technologies pour la Terre, l'observation de la Terre, du côté des thématiques pluridisciplinaires, histoire géo, bien sûr, SVT, mais surtout le renseignement à l'environnement et au développement durable. Et puis, les appels peuvent concerner des sujets qui sont très, très divers. Moi, j'ai pensé plutôt à une manifestation parce que c'est ce qui me paraît le plus intéressant, mais toutes les propositions peuvent être... C'est le moment, je crois, de donner cœur à un projet concret qui peut souder une communauté. Alors, du point de vue pratique, moi, je pense qu'il faut prendre date et puis se dire, voilà, il y aura, moi, je propose septembre, une rencontre à l'INRP pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent bien nous rejoindre. Donc, je vous invite, vous serez informés par la liste de diffusion et je vous invite donc à nous rejoindre sur cette question.
Quelques réactions par rapport aux propositions? C'est la fatigue ou c'est simplement que...
Alors,
vous
je crois qu'il... Oui, d'ailleurs.
Une information, si vous allez à Paris, sur les grilles de l'UNESCO, autour de l'UNESCO, vient d'être montée une exposition absolument extraordinaire qu'on en trouve sur les grilles du Palais de Luxembourg. On a l'ensemble de la Terre sous la forme de photos satellites avec 60 agrandissements de 60 sites remarquables au niveau mondial et avec un niveau de précision qui est assez ahurissant.
Alors, pendant qu'on est dans l'information, il y a aussi un très bon numéro de géographes associés qui s'intitule « Savoir penser et partager l'information géographique, les SIG ». Je pense que ça peut être lu également par des gens de SVT. Ça fait un point actuellement sur des expérimentations, notamment en classe, de ces outils-là, de différents outils. Donc, il vient de paraître, hein, je viens de le recevoir. Géographes associés, est-ce qu'il y a d'autres informations?
Le numéro du CNDP sur aborder les enjeux de l'environnement.
Oui, oui. Il y a eu un numéro spécial des dossiers ingénierie éducative qui sont toujours de très bonne qualité, effectivement, qui font le point sur l'environnement. Il y en a eu un sur la cartographie SIG, il y en a un sur l'actualité. Donc, ça peut être aussi une source d'information intéressante lorsque, dans vos académies, vous avez des questions par rapport à de la ressource. On va clôturer cette journée. On vous remercie encore pour votre participation. On se retrouve sur la liste et l'année prochaine en direct. Merci encore et puis à bientôt.
Et bon retour dans vos académies respectives.